VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gaby Dorsil et Anastasie Tudiège, bienvenue dans cette édition du lundi 7 septembre 2015. À la une ce soir.
À la une ce soir, d'abord le procès Hissène Habré au Sénégal. Monsieur Habré n'a pas voulu se rendre au tribunal, mais on l'a amené de force.
La CPI demande à l'Afrique du Sud de s'expliquer pour n'avoir pas arrêté Omar El-Béchir en juin dernier.
Égypte, le ministre de l'Agriculture arrêté dans une enquête pour corruption.
Crise migratoire en Europe, la Hongrie desserre l'étau, tandis que l'Allemagne et la France se disent prêtes à recevoir des dizaines de milliers de réfugiés.
Crise au Yémen, premier déploiement au sol du Qatar et renforcement de l'intervention militaire saoudienne contre les rebelles chiites soutenus par l'Iran.
Et chérubins, nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Procès Hissène Habré au Sénégal, l'ancien président tchadien n'a pas voulu comparaître à cette nouvelle audience, mais il y a été contraint. Une fois de plus, M. Habré a récusé les chambres africaines extraordinaires et ses avocats commis d'office. Les conseils que l'ancien président tchadien avait choisis ne veulent pas non plus assister à ce qu'il qualifie de mascarade. Le reportage de Sokhna Natambay, notre correspondante à Dakar.
Le procès de Hissène Habré a repris sur fond de violence. L'ancien président tchadien n'a pas voulu se présenter et le président des chambres africaines extraordinaires a fait appel à un huissier pour constater cette absence. Après une suspension d'audience de 45 minutes, la cour a fait appel aux éléments pénitentiaires d'intervention. 10 d'entre eux l'ont amené manu militari et 4 l'ont forcé à s'asseoir sur un siège. Ce sont des avocats de la défense excédée qui s'expriment. Maître François Serre.
On est dans une situation de violence absolue. Le président Kam, aujourd'hui, s'est inscrit dans un processus de mensonge. Le président Kam a menti en prétendant que le président Habré avait été amené de son plein gré au tribunal et qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne venait pas dans la salle.
Maître François Serre et maître Ibrahima Diawara, les deux seuls avocats reconnus par Habré, n'ont pas assisté à l'audience. C'est leur stratégie de défense. Quant à l'accusation, elle condamne également cette méthode tout en dénonçant l'attitude de la partie adverse. Georges-Henri Bautier, l'un des avocats des parties civiles.
Là, il a le droit de parole de conseil, le droit de ses défenses tout seul et la cour a le droit de lui désigner des avocats d'office.
La défense a par ailleurs fait état d'une manipulation de la liste des témoins à décharge. Sokhna Natambay, Dakar, VOA Afrique.
La CPI demande à l'Afrique du Sud de s'expliquer pour n'avoir pas arrêté Omar El-Béchir en juin dernier. Le président soudanais avait bravé une fois de plus le mandat d'arrêt de la justice internationale en se rendant sans inquiétude dans un pays signataire de l'accord de Rome. Les détails avec Eddy Sango.
L'Afrique du Sud doit remettre au juge de la CPI, au plus tard le 5 octobre, ses vues sur les événements entourant la présence d'Omar El-Béchir au sommet de l'Union africaine à Johannesburg les 13, 14 et 15 juin 2015, ont indiqué les juges de la CPI dans un document. Le gouvernement de Jacob Zuma doit en particulier expliquer sa défaillance à arrêter Omar El-Béchir et à les remettre à la cour. Malgré une mesure d'interdiction prise par un juge de la CPI, les autorités sud-africaines avaient laissé partir les présidents soudanais qui est sous le coup d'un mandat de la CPI et qui participait au sommet de l'Union africaine. Les juges de la CPI rappellent qu'en tant que pays signataire de l'accord de Rome, l'Afrique du Sud était dans l'obligation d'arrêter M. Béchir, poursuivi pour génocide et crimes de guerre dans son pays. Même si ses déplacements sont réduits, M. Béchir continue à s'y rendre à l'étranger sans être inquiété, parfois dans des pays membres de la CPI, laquelle ne dispose pas de sa propre police et doit s'en remettre à la coopération des États.
Au Mali, les autorités ont mis fin à la course des auteurs des récentes attaques à Bamako et Baguineda. Ils ont été arrêtés et de nombreux pistolets, mitrailleurs, grenades et cartouches ont été saisis. Nous retrouvons à Bamako Kassim Traoré.
Ils sont auteurs des récents attentats contre l'aménagement et les postes de sécurité à Bamako. Courant la nuit du 5 au 6 septembre 2015, une équipe d'intervention des services spéciaux de sécurité malienne a procédé à l'arrestation de 3 personnes, membres du commando, auteurs des attaques contre les logements du personnel de l'aménagement à Mayambougou, de la brigade de gendarmerie de Baguineda et du poste de police de l'autogare de Sogoninko. La première personne arrêtée est Hassan Diko, alias Abou Leila. Il est la deuxième personne personnalité du Front de libération du Massina, principal adjoint d'Amadou Koufa, ancien de la police islamique de Tombouctou, chef du commando de Bamako. La deuxième personne arrêtée est Ali Sangaré, conducteur de taxi. Il est le transporteur du groupe. La troisième et dernière personne arrêtée est Ayouba Sangaré. La perquisition à son domicile a permis de retrouver la cache d'armes du commando et un important lot de pistolets mitrailleurs. Des grenades et des cartouches ont été saisies. À la suite des enquêtes, il ressort que Hassan Diko est le principal adjoint d'Amadou Koufa. Il est fondateur de la cellule djihadiste de Bamako. À l'instar d'Amadou Koufa, il a effectué plusieurs voyages au nord du Mali à l'effet de rencontrer Iyad Agali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Mali est en état d'alerte après que les autorités de Bamako, la capitale du pays, ont détecté un cas de poliomyélite dont la date de paralysie remonte au 20 juillet 2015, explique l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans un communiqué. La victime est un enfant de 19 mois de nationalité guinéenne dont la paralysie est survenue en Guinée environ 7 jours avant son arrivée à Bamako pour la recherche de soins.
La forêt recule, mais moins vite qu'avant, dit en substance le directeur général de l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, José Graziano da Silva, et d'ajouter que les forêts plantées seront aussi en augmentation pour répondre aux besoins croissants de l'humanité. Un rapport publié par la FAO ce lundi à l'ouverture du 14e sommet forestier mondial à Durban en Afrique du Sud souligne toutefois que ces bonnes nouvelles doivent nous garder vigilants. La superficie forestière a diminué de 3,1% en un quart de siècle, soit une superficie équivalente à celle de l'Afrique du Sud. Les zones les plus touchées sont les tropiques, particulièrement en Amérique du Sud et en Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le flux de réfugiés vers l'Europe s'est poursuivi ce lundi. Le passage à travers la Hongrie est beaucoup plus facile que la semaine dernière, quand ce pays d'Europe centrale semblait prêt à tout pour empêcher les migrants d'atteindre l'Europe occidentale. Entre-temps, Paris et Berlin ouvrent leurs portes à des milliers de réfugiés, les Syriens notamment. Tatiana Mousseau nous en dit plus.
À Keleti, la gare principale de Budapest, on peut maintenant voir les horaires des trains devant transporter les réfugiés en Autriche. La semaine dernière, la police avait fait usage de gaz contre les migrants. Selon un observateur, les trains à destination de l'Autriche sont maintenant juste chargés de migrants. À leur arrivée à la gare Westbahnhof de Vienne, les réfugiés sont accueillis par des applaudissements, mais l'Autriche n'est pas leur destination finale. En fait, très peu de réfugiés choisissent de rester en Autriche. Le but de l'Odyssée, c'est l'Allemagne, où beaucoup de migrants ont déjà des parents et où le gouvernement a déclaré qu'il est prêt à accepter 800 000 personnes. Berlin a également annoncé un supplément de 6,6 milliards de dollars en fonds publics l'année prochaine pour absorber les réfugiés dans la société allemande. De son côté, la France a promis d'accueillir sur 2 ans jusqu'à 24 000 migrants. Le président François Hollande, écoutez-le.
La Commission européenne propose ou va proposer de répartir 120 000 réfugiés sur les 2 prochaines années, ce qui représentera pour la France 24 000 personnes. Nous le ferons.
Pour une solution adéquate et durable à la crise migratoire, le président français insiste sur la nécessité d'une concertation à l'échelle européenne.
Et ajoutons, Gabi, que selon une source ministérielle canadienne, le Québec se porte volontaire pour accueillir 3600 réfugiés syriens d'ici décembre.
Le CCG, Conseil de coopération du Golfe, s'implique davantage dans la crise au Yémen. Selon la chaîne télé Al Jazeera, un nouveau déploiement au sol a débuté avec la participation de plusieurs milliers de soldats venant notamment du Qatar et de l'Arabie saoudite. Précision, Michel Joseph.
Les pays arabes du Golfe ont lancé depuis fin mars une campagne aérienne contre les rebelles chiites pro-iraniens qui contrôlent une partie du Yémen, y compris la capitale Sanaa. Mais si l'information de ce lundi est confirmée, souligne l'AFP, il s'agirait du premier déploiement connu de forces terrestres du Qatar au Yémen. Ce déploiement se déroule dans la province de Marib, à l'est de la capitale yéménite. Un millier de Qataris, soutenus par plus de 200 véhicules blindés, sont arrivés dimanche soir au Yémen, en passant par l'Arabie saoudite. Simultanément, Riyad a déployé hier à Marib d'importantes forces de ses unités d'élite, apprend-on de sources diverses dans la région. il y aurait 1000 soldats saoudiens dans ce nouveau déploiement, avec des blindés et des chars de combat, indique-t-on de même source. En tout, environ 10 000 soldats des pays du CCG combattent au sol au Yémen, où le conflit qui a forcé le départ de deux présidents a fait près de 4 400 morts et 1 300 000 déplacés, selon l'ONU. L'annonce de ces renforts fait suite à l'attaque aux missiles attribuée aux rebelles qui a fait vendredi 60 morts parmi des militaires émiratis, saoudiens et bahreïnis, les plus lourdes pertes de la coalition depuis mars.
Une soixantaine d'États doivent prendre part demain mardi à une conférence internationale à Paris sur le sort des minorités face au groupe État islamique. Des sources diplomatiques ont confirmé à l'AFP que lors de cette rencontre, un plan d'action sera dévoilé. Il prévoit dans ses grandes lignes de préparer et faciliter le retour volontaire et durable des déplacés, promouvoir des solutions politiques respectueuses des droits de l'homme et mettre fin à l'impunité de ceux qui ont commis des crimes contre les populations pour des raisons d'appartenance ethnique ou de conviction religieuse, a indiqué un porte-parole du gouvernement français. La conférence sera ouverte par le président François Hollande.
Nouvelles frappes aériennes de la Turquie contre les combattants du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, cette fois en représailles après l'attaque d'un convoi près de la frontière avec l'Irak et l'Iran. Des avions F-4 et F-16 ont bombardé 13 cibles du PKK ce lundi. Hier, les militants kurdes ont perpétré un attentat à la bombe qui a sévèrement endommagé deux véhicules blindés et fait au moins 16 morts au sein de l'armée turque.
La plupart des écoles arabes d'Israël ont fait grève lundi en solidarité avec 47 établissements scolaires chrétiens en grève depuis la rentrée pour réclamer davantage de fonds publics. Selon les déclarations d'un directeur d'école à l'AFP, la quasi-totalité des 450 000 élèves des écoles arabes ont été privés de cours, mais la grève était prévue pour seulement un jour.
Résultat de la présidentielle au Guatemala, le comédien Jimmy Morales arrive en tête au premier tour avec 24% des suffrages, devançant l'homme d'affaires conservateur Manuel Baldisson et l'ancienne première dame Sandra Torres, qui ont obtenu chacun environ 19%. Un second tour est prévu le mois prochain. Jimmy Morales s'est fait beaucoup de sympathisants avec son slogan « Pas corrompu, pas un voleur » dans un pays où le président en exercice a dû démissionner 3 jours avant le scrutin.
Et voilà pour le journal. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Lionel Gahima.
Glencore, le géant suisse du négoce des matières premières, a annoncé lundi la suspension pour 18 mois de la production de cuivre dans deux de ses mines, en Zambie et en RD Congo. Parmi les autres mesures annoncées, la mise en vente d'actifs dont la société espère retirer 2 milliards de dollars. Ces initiatives ont été saluées chaudement à la Bourse de Londres, où le titre bondissait de 10,48% peu après l'ouverture ce matin. La Chine a annoncé aujourd'hui une révision à la baisse de la croissance de son PIB en 2014, aggravant les inquiétudes sur le ralentissement de son économie. Le chiffre définitif sera connu en janvier prochain. L'objectif des autorités chinoises est de parvenir à une croissance d'environ 7% en 2015, un objectif qui laisse les analystes sceptiques. La Chine représente 13% du produit intérieur brut mondial. Selon nos confrères de Jeune Afrique, le distributeur de biens culturels et technologiques FNAC ouvre bientôt 2 points de vente en Côte d'Ivoire en alliance avec le groupe Prosuma, leader ivoirien de la grande distribution. Ces nouveaux magasins proposeront l'ensemble des produits et services de la FNAC, livres, disques, DVD, entre autres.
C'était la Minute Éco. Merci Lionel Gahima.
En résumé, mais vraiment en résumé, l'actualité sportive avec Timothée Donangbaï en studio. Salut Tim.
Salut Gabi.
Coup d'œil sur les résultats de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Il y a eu des matchs ce week-end.
Et oui Gabi, le Burundi a défait le Niger 2-0. Victoire du Congo 4-2 contre la Guinée-Bissau. Le Soudan du Sud victorieux 1-0 de la Guinée équatoriale. Belle sortie du Gabon contre le Soudan 4-0. La RCA a défait la RDC voisine 2-0. L'Égypte a infligé un carton au Tchad 5-1. C'était à N'Djamena. Et courte victoire du Cameroun contre la Gambie 1-0. Et puis celle du Cap-Vert 2-1 contre la Libye.
Suite à New York de l'Open de tennis des États-Unis.
Chez les dames, en 8e de finale aujourd'hui, l'Américaine Varvara Levchenko a été défaite en 2-7 par Victoria Azarenka. Serena Williams, pendant ce temps, poursuit sa quête du Grand Chelem. Elle s'est qualifiée hier pour les quarts de finale en battant sa compatriote Madison Keys en 2-7. Son adversaire en quart de finale ne sera nul autre que sa sœur Venus Williams. Et Gabi, ce sera la 27e rencontre entre les deux sœurs en tournoi professionnel.
Alors, tu choisis Serena ou Venus ?
Je ne sais rien, que la meilleure gagne.
Que la meilleure gagne, ça veut dire qu'il a choisi Serena Williams. Voilà, merci Timothée Donangmaï pour l'actualité sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech et Chérubin Dorsil en votre compagnie sur VOA Afrique. Place au dossier du jour, Chérubin.
On va parler, Anastasie, tout d'abord du début de l'année scolaire au Cameroun. Sandrine Yamga, notre correspondante, nous propose un reportage sur la problématique du manuel scolaire dans ce pays d'Afrique centrale.
La rentrée scolaire au Cameroun ne rime pas toujours avec disponibilité du manuel scolaire. Dans les librairies, plusieurs parents crient à la cherté, mais surtout à la rareté des livres inscrits au programme scolaire de leur progéniture. Une situation qui affecte la librairie de seconde main et qui est due au changement observé chaque année sur les listes du manuel, déplorent des parents.
Je suis venu avec les livres pour changer. On me dit qu'on a tout changé. Finalement, je suis vraiment dessus.
Nous pouvons pas acheter les livres chaque année. La maison est pleine de livres. Les armoires sont pleines de livres. Les livres, c'est pas quand on est venu les cahiers. Il faut quand même qu'on voie la situation. Qu'on essaie de mettre un livre au programme, il peut faire au moins 5 ans, 7 ans.
Conséquence aussi, les bénéfices sont en baisse chez ces commerçants.
Nous avons un store de livres qu'on ne peut plus vendre. Parce que le gouvernement a changé tous les livres sur le marché. Au-delà de ça, vous voyez, un enfant ne peut plus passer et que son petit frère reprenne le même livre pour fréquenter avec. Le marché, vous voyez, a trop de pauvreté. On ne sent même pas qu'il y a une rentrée scolaire.
Et nous demandons vraiment de revoir ce problème-là. Parce que quand on change les livres chaque année, nous les libraires, qu'est-ce que nous en faisons de ce qui reste ?
On ne suppose que cette année, on met major. L'année prochaine, on dit on met excellence. Finalement, on ne connaît plus le livre que nous allons utiliser.
Depuis quelques années, les autorités en charge de l'éducation, notamment au ministère des enseignements secondaires et de l'éducation de base, appellent les éditeurs à leur proposer des livres inscrits au programme scolaire. Le processus est enclenché quelques mois avant chaque année scolaire et ouvre la voie à la corruption. Explication de Ferdinand Anapayon, initiateur de la Bourse du Livre et spécialiste en marketing.
Lorsqu'on dit livre de français, on propose au programme 3, parfois 4 livres, ce qui n'est pas réglementaire. 4 livres de français et c'est maintenant au chef d'établissement ou bien au chef du département de la langue française dans l'établissement de choisir le livre qu'il veut. Ça ouvre à la porte à des négociations. Vous allez voir des éditeurs qui font la queue pour proposer leurs ouvrages avec des arguments. Résultat des courses, on choisira ce livre. L'année prochaine, si ce n'est pas vous qui êtes chef de département, ben vous choisissez l'autre. Dans les familles, lorsqu'il y avait cette possibilité d'échanger des livres en famille, les familles économisaient des milliards de francs chaque année. La solution, c'est qu'on revienne sur cet arrêté et que, par exemple, au lieu de dire que tous les ans, on évalue et on voit, on propose des titres, qu'on dise que voilà, on va proposer des titres pendant 3 ans. Ça permet d'un coup que ça résolve ce problème qui est social, économique et puis même sur le plan éducatif.
Les changements permanents observés sur les listes et la possibilité pour chaque chef d'établissement de choisir son manuel scolaire chaque année peuvent être des éléments qui laissent croire que les élèves n'abordent pas les examens avec les mêmes chances, clament des syndicalistes.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
À Libreville, l'hôtel de ville a lancé une opération d'attribution d'un nom à chaque rue et avenue et un numéro sur chaque maison. La mairie veut mieux orienter les ambulances, faciliter le travail des taximens ou permettre à la poste de distribuer le courrier dans les quartiers. C'est une bonne idée, non ?
Une très bonne idée. Alors, qui finance l'opération ?
J'y venais justement. L'opération est financée par l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones. Elle a été officiellement lancée ce week-end. Notre correspondant Jean Revis Dabani nous en dit plus.
Carrefour poubelle derrière la prison Affaires étrangères, trois quartiers. Dans la capitale gabonaise, les moyens d'orientation sont les édifices publics ou les quartiers les plus connus. Mais cette donne pourra bientôt changer. Plus de 50 ans après, la mairie de Libreville a ressorti de ses tiroirs un projet d'attribution des noms et des adresses à chaque rue. Pour une étape emblématique de cette opération, le dévoilement de la plaque de la rue Bernard Mba dans le 2e arrondissement de Libreville. Bengon Eyegué, le maire d'arrondissement, s'est réjoui.
Cette cérémonie n'est pas pour les habitants de notre arrondissement un moment ordinaire. Elle est considérée comme une nouvelle ère pour tous les arrondissements de Libreville. Il y a en effet dans la mise en œuvre de ce projet d'adressage l'élaboration d'un système de repérage plus efficace pour toutes les personnes habitant le 2e arrondissement ou qui sont de passage.
Le but visé, selon Rose Osuka Raponda, la maire de Libreville, c'est d'améliorer les recettes fiscales. Elle pense que cette initiative va bientôt mettre fin à ce casse-tête.
L'adressage de la ville de Libreville apportera notamment une amélioration du repérage et de l'orientation pour les habitants, localisation également des services urbains, une facilitation des interventions de sécurité et d'urgence, telles que les forces de police, les ambulances, les pompiers, etc.
À ce jour, Libreville ne compte que 50 rues avec des noms de personnalités françaises. Certes, le centre-ville bénéficie d'un plan d'adressage, seulement les usagers ne s'y réfèrent toujours pas pour leur orientation. À Libreville, de nombreux quartiers sont enclavés, beaucoup de maisons sont perchés sur des collines, pas d'accès pour les sapeurs-pompiers, les ambulances ou la poste. Les habitants, eux, ne croient pas au succès de l'opération, car toutes les expériences antérieures ont lamentablement échoué. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon, sur Ogoué FM, à Libreville.
Des centaines de jeunes filles mauritaniennes qui avaient reçu des promesses d'emploi en Arabie Saoudite se sont retrouvées piégées. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une véritable traite de la personne. Notre correspondant Brahim Dia a rencontré Maria Taba qui a échappé à ses employeurs.
Je pensais que j'allais seulement travailler tranquillement dans le pays du prophète Mohammed, pays d'humanisme. On m'a dit au départ que j'allais seulement garder les enfants. Une fois sur place, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. C'était plutôt un travail de domestique.
Maria Taba, une trentaine d'années, est allée en Arabie Saoudite. Elle y a passé une vingtaine de jours. Nous l'avons rencontrée à la périphérie de Nouakchott. Des agences de placement semi-clandestins lui avaient promis un emploi de babysitter. Elle s'est retrouvée domestique à tout faire.
Ma patronne a commencé à me menacer. Elle me réveillait à tout moment. Je montais les escaliers pour nettoyer les murs. Je faisais tout ce qu'elle voulait. J'ai demandé seulement un peu de sommeil, même si je ne mange pas, car je souffre d'hypotension.
L'alerte sur le sort des Mauritaniennes employées en Arabie Saoudite a été donnée par l'AFCF, Association Mauritanienne des Femmes Chefs de Famille. Ces jeunes filles, domestiques à tout faire, subissent aussi des violences sexuelles. Aminatou Mint Mokhtar est présidente de l'AFCF.
Elles sont maltraitées, battues, insultées par la famille, la femme, violées parfois par le mari.
L'AFCF, avec les familles de certaines victimes, a porté l'affaire devant la justice mauritanienne. 13 filles ont été rapatriées, mais le dossier n'est pas encore clos. Aminatou Mint Mokhtar.
Nous sommes déterminés à continuer le combat pour que toutes les femmes viennent et pour que le trafic s'arrête en Mauritanie et pour que cette question soit vraiment étudiée et soit régularisée par la justice d'une manière qui satisfait les victimes.
Les organisations mauritaniennes de lutte contre l'esclavage sont elles aussi saisies de la question. La majorité des filles envoyées en Arabie Saoudite, en effet, sont ici de familles d'origine servile. La présidente de l'AFCF, qui est aussi membre de l'ONG SOS Esclaves, entend continuer le combat.
La justice n'est pas faite et tant que ces femmes ne sont pas revenues toutes, nous n'acceptons pas de baisser les bras. Nous continuons à lutter.
Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La mer était déchaînée ces jours derniers sur la côte dakaroise et dans plusieurs localités environnantes. Des populations ont perdu leur maison et ont été logées dans des centres d'accueil provisoires suite à de très violentes intempéries qui ont frappé le littoral sénégalais. Le point avec Sohna Natambay.
L'ouragan Fred ne s'est pas attardé sur les côtes sénégalaises, mais la forte houle a causé énormément de dégâts ces derniers jours. De la corniche est à la corniche ouest de Dakar, les victimes se signalent. Sur le quai de pêche de Soumbidjoun, des pêcheurs impuissants face à la furie des vagues.
Il y a un phénomène qui s'appelle le sambara. C'est un phénomène annuel. Chaque année, on le vit. C'est un passage qui élimine toute activité maritime.
À Yarar, un quartier de pêcheurs, maisons, usines et pirogues, rien n'a été épargné. Monsieur Gueye a perdu une partie de sa fabrique. Difficile d'évaluer les pertes pour le moment.
C'est du matériel d'usine, c'est des machines. Et c'est tout ça, je crois qu'il faut maintenant, à tête reposée, faire le bilan. Mais à vif comme ça, on ne peut parler que de millions. Mais combien exactement, c'est difficile à dire maintenant.
À quelques encablures de là, se trouve la commune de Mbao. Celle-ci n'a pas non plus été épargnée par la mer. Abdoulaye Pouille, le maire.
À Mbao, il y a beaucoup de maisons qui ont été cassées. Des centaines de personnes sont dehors. Ça, c'est un cri de cœur pour que l'État vienne.
Justement, le Premier ministre s'est rendu sur les sites concernés. 11 millions de francs ont été décaissés et 60 tonnes de riz offertes pour assister les sinistrés. Mais le chef du gouvernement n'a pas manqué de souligner la responsabilité des populations. Mohamed Bounabdallah John.
Nous avons vu des constructions, des maisons détruites, se trouvant à un mètre de l'océan. Nous allons travailler pour trouver des solutions urgentes. D'abord à travers la loi sur le littoral.
Ali Haïdar confirme, il est écologiste et ancien ministre de l'écologie.
Quand on traverse une tempête, quand on traverse une zone de turbulence, tout dépend de l'état dans lequel elle nous trouve. Elle a trouvé un état de notre littoral qui est lui-même agressé par les humains. Le prélèvement du sable sur les plages, la coupe abusive des arbres du littoral. Il y a le moyen terme, il y a le long terme. Sur le moyen terme, je pense qu'il est important quand même que nous ayons un comportement respectueux vis-à-vis de l'environnement.
La loi sur le littoral, on en parle depuis 2011, mais toujours rien. Ces derniers incidents climatiques sont une première. En seulement 2 jours, la mer a fait plus de dégâts que ces dernières années réunies. Certes, les victimes réclament plus que quelques tonnes de riz, mais leur part de responsabilité est plus importante. Sohna Natambay, Dakar, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Alors, grâce à Joselle Mauricien à la régie, on commence la semaine bon pied, bon œil, Anastasie.
Et en dansant avec les Zouk Machines, c'était...
Dans les années 80, je crois.
La musique dans la peau, exactement.
Voilà, on l'écoute. avec Anastasie. C'est la classe, l'élégance, mais c'est aussi la danse.
Et Chérubin en plein feeling.
Oh,
feeling Caraïbes.
Thank you. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette édition.
Non.
Oui, bien sûr. On remercie à la mise en onde Joselle Morissin et Mr. Remkes à la console. Présentation, Chérubin, Gabi Dorsil.
Et Anastasie Tudiech. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Retrouvons-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.